BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Il est 20h pile en ce lundi 8 avril. Merci d'être là. Bienvenue sur le plateau de BFM Business et Tech & Co. Bienvenue dans ces 90 minutes dédiées à la tech. Vous le savez, on est là chaque soir du lundi au jeudi, 20h, 21h30, radio, télé. Et puis après, vous faites comme vous voulez, les replays, les podcasts de cette émission qui sont à votre disposition. Pour débuter la semaine, beaucoup d'actu tech avec au sommaire ce soir, eh bien, les artistes et pas n'importe lesquels, vous allez voir de grandes stars de la chanson américaine, eh bien, qui sont vent debout contre l'intelligence artificielle. Ils se sentent pillés en quelque sorte. On va en parler avec nos débriefeurs ce soir. Les robots taxis de Tesla qui arrivent en août. Ça, c'est un tweet un peu mystérieux d'Elon Musk. On pourrait déduire que voilà, la première voiture totalement robot de Tesla pour arriver en août prochain. Et puis, invité exceptionnel ce soir dans Tech & Co, je reçois tout à l'heure Jean-Baptiste Caronf, qui est le fondateur d'un des logiciels qu'on a toutes et tous téléchargés, l'un des logiciels les plus téléchargés au monde. Et il est français, monsieur, dame. Il s'agit de VLC, le fameux lecteur vidéo disponible un peu partout. Merci d'être là, bienvenue. C'est parti pour Tech & Co, la quotidienne.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et oui, tout le monde est en train de parler de VLC, messieurs. Ben oui, c'est une belle réussite française, hein. Franchement, ça fait plaisir. Et donc, le fondateur de VLC sera avec nous tout à l'heure. On reviendra sur l'histoire de ce logiciel. Et puis, vous allez voir, il a plein de projets dans ses tiroirs. Notamment, il développe une version pour le Vision Pro d'Apple. Donc, voilà, plein de questions qu'on posera à Jean-Baptiste Caronf tout à l'heure. Ils sont avec nous ce soir. Salim Nassur, salut Salim.
Salut.
Fondateur de Mars, ex de chez Google, à tes côtés, c'est Damien Douani qui est là. Salut Damien.
Bonsoir François.
Responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil Lab36 et Frédéric Simotel. Tout le temps là, fidèle au poste.
Bonsoir à tous, bonsoir
François. Est-ce qu'on on applaudit Frédéric Simotel?
Ah, on
applaudit.
Oui, on applaudit.
Marathon Paris, les amis. 28h57. Non, je plaisante.
Il est arrivé à 5 minutes.
Non,
1h57. 1h57.
Non, 3h53. Et moi, rien que de penser au marathon de Paris, je suis fatigué. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah, ben complètement.
Lui,
oui,
il l'a fait. Il l'a fait. Bravo.
Ah, moi, je suis admiratif.
Et non, le plus fort, c'est qu'il prépare ses rubriques en courant. Et...
Incroyable. Non, mais tu sais ce qu'il
fait. Il est dit que t'as une IA.
Tu sais ce qu'il fait quand il n'est pas dans Tech & Co, il écoute Tech & Co en courant.
Ouais.
Ah, vrai ou pas?
Ah, vrai, vrai.
Et de temps en temps, il m'envoie des petits SMS en disant. Ben voilà, tiens, j'ai écouté ça en courant et tout, c'était top.
Et parfois, j'oublie que c'est le replay, donc parfois, je réagis. Et après, 2 kilomètres après, je me dis, bah non, il n'y a pas à répondre.
Ben voilà, écoutez, ben, toute l'équipe va bien et on est ravis, évidemment, de débuter cette nouvelle semaine avec vous. Dans l'actu, plein de choses passionnantes. On va parler d'IA beaucoup ce soir avec le Sénat qui juge que l'expérimentation de l'IA générative dans le public passe à côté des vrais sujets. Est-ce qu'on sera en retard au niveau de l'État concernant l'IA générative, visiblement oui. On parlera aussi de Spotify qui lance en fait une IA assez intéressante, une espèce de prompt que vous allez dicter à Spotify et qui va vous sortir la playlist parfaite selon vos goûts. Alors pour l'instant c'est en test dans certains pays, pas en France, hein, mais ça va sans doute arriver. Mais pour débuter, les artistes contre-attaquent face à l'IA. Aux États-Unis, plus de 200 chanteurs ont écrit une lettre ouverte aux géants de la tech pour leur demander en fait d'arrêter d'exploiter leur travail. Et parmi les signataires, c'est pas n'importe qui, hein. Katy Perry, Billie Eilish ou encore Bon Jovi. Et tous parlent d'une utilisation prédatrice de l'IA pour voler les voix des artistes et professionnels, violer les droits des créateurs et détruire en fait l'écosystème de la musique qui, rappelons-le, représente des dizaines et des dizaines de milliards, hein. Et ils demandent donc aux géants de la tech de réagir. On écoute Anthony Morel qui ce matin dans Good Morning Business nous résumait tout ça et on revient bien sûr sur le plateau juste après.
En fait, il y a deux accusations là-dedans. Il y a l'accusation de voler leur texte, finalement, de siphonner.
De s'en nourrir.
Ben oui, de s'en nourrir pour nourrir les modèles de langage, hein, pour apprendre à ChatGPT à écrire des chansons. Ben, en fait, on va piocher toutes les chansons qui existent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est le point le plus important, je dois dire, c'est le fait aussi de permettre à n'importe qui de voler leur voix, c'est-à-dire de générer des clones synthétiques qui permettent de leur faire chanter n'importe quoi. Alors, il y a eu plein d'exemples ces derniers mois, par exemple ce morceau d'Angèle.
Je sais jamais comment tu souffles, mais je l'imagine. Tout fragile, ton cœur en argile.
C'est génial. Et d'ailleurs, ce morceau est devenu viral. Alors, je précise que Angèle ne chante absolument pas. On reconnaît sa voix, son timbre, son intonation, mais elle n'a absolument rien à voir avec ce morceau qui est devenu, qui a explosé sur
incroyable,
les réseaux sociaux.
Incroyable, parce qu'en plus, c'est bon.
Mais oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui est absolument incroyable, c'est qu'on arrive à obtenir des résultats qui sont très très bons, quoi. Alors, elle l'a repris ensuite en concert. Enfin, c'est rigolo. Il y a une sorte de mise en abîme. C'est un exemple. On pourrait en citer des dizaines d'autres. On voit qu'il y a des législations qui commencent à se mettre en place. En Europe, on a l'IA Act quand même qui commence à arriver et qui oblige les spécialistes de l'IA générative, donc tous les grands groupes technologiques, à identifier les contenus générés par l'IA, mais ça concerne seulement les grands groupes pour l'instant. Ouais. Aux États-Unis, la législation aussi commence à évoluer. Par exemple, on a l'Elvis Act, j'aime beaucoup le nom, qui a été mis en place dans l'État du Tennessee, qui interdit qu'une IA générative reproduise la voix d'un chanteur ou d'une chanteuse sans son consentement, et c'est une loi qui pourrait devenir fédérale, ou en tout cas il pourrait y en avoir une adaptation au niveau fédéral. Donc on voit que ça avance, mais l'IA va tellement tellement vite que la législation a quand même beaucoup beaucoup de mal à suivre, très clairement.
Incroyable cette histoire, voilà encore une fois un point concret de l'impact que peut avoir l'IA. Alors c'est vrai qu'on dit que beaucoup de secteurs vont être touchés, ben voilà, ce sont les stars de la chanson américaine qui s'associent pour revendiquer leur droit à ne plus être spoilés, volés par l'IA, c'est très intéressant. Finalement tous les chanteurs se sont fait voler déjà leur musique, hein. Mmh. Les samples, ça existe depuis 30 ans. Mais c'est rémunéré. Enfin pas toujours. Hein. Il y a eu des histoires quand même incroyables.
Là, c'est pas là, c'est beaucoup plus loin.
Michael Jackson, Wanna Be Starting Something, qui est une chanson incroyable. Toute la fin de la chanson, il a fallu pour l'auteur de ce premier hit, des années devant les tribunaux pour revendiquer
Manu Dibango.
C'était Manu Dibango. Exactement. Merci.
C'est vrai.
Donc ces histoires-là, enfin, on voit que les musiciens et les artistes ont toujours été proches, en fait, ont toujours essayé de protéger leurs droits, mais là, avec l'IA, ça devient un peu plus compliqué quand on voit Suno.ai, qu'on a utilisé, qui est un truc de dingue.
Moi, la première chose qui me surprend, c'est qu'il n'y ait pas tous les artistes.
Oui, tu as raison.
Tu en as cité quelques-uns, qui sont connus, hein, Katy Perry, Billie Eilish et tout ça, mais tu t'attendrais à dire, Taylor Swift, les Rolling Stones et tout ça. Surtout que Taylor Swift, rappelons-le, hein, c'est la première à avoir, au départ, elle avait refusé d'être sur Spotify.
Oui,
hein. Tout le monde était sur Spotify, il y en avait deux. Il y avait Francis Cabrel et Taylor Swift.
Il y avait Adele aussi,
qui n'y était pas. et donc, c'est assez surprenant. Enfin, déjà, moi, c'est ma première surprise. Alors, peut-être que ça vient parce que c'est les maisons de disques, parce que il y a un certain lobbying, mais c'est étonnant de voir que, parce qu'on aurait eu la majeure partie des artistes, on se serait dit oui, il y a un phénomène. Là, quand même, c'est un peu les deuxièmes couteaux, quoi, quand même. Même
quand
s'il
même,
y a des bonnes
choses. C'est dur, deuxième couteau, quand même.
Non, c'est dur.
Katy Perry, Billie Eilish, c'est vraiment la star montante, quoi.
T'es quand même sur des gens qui font des millions d'écoutes, quoi.
Bonne aussi.
Quand j'entends dans les grandes stars, tu vois, les grandes stars du rock, quoi. Enfin, tu vois, les.
Peut-être. Si je peux me permettre, peut-être parce que les stars du rock ont une voix, en fait, si tu veux. C'est plus difficile à reproduire. Non mais blague à part. Je me souviens d'une chanson de Jay-Z, justement, qui s'appelait « Mort à l'autotune ». Et en fait, moi, ça fait des années où je dis « Arrêtez d'utiliser un vocodeur ». En fait, t'as une période où les humains ont essayé de se transformer en robots en trafiquant leur voix. Tu vois, tu parlais d'Adèle tout à l'heure, peut-être d'Angèle, pardon, tu pourras peut-être en parler après. Mais aujourd'hui, donc, on a essayé de se transformer en robots. Et un, t'as le robot qui devient plus humain et tu dis,
Un outil artistique.
Et tu parlais des samples,
Attends, là c'est quand même autre chose. Là on est sur exactement la même chose qui s'est passée il y a plusieurs mois avec la grève des scénaristes et des acteurs américains.
Oui.
En clair, non, on ne veut pas se faire piller nos visages, là, nos voix, pour faire en sorte d'être exploité par la suite. C'est quand même là l'histoire. Il y a quelques mois, quand c'était les acteurs, c'était on ne veut pas signer auprès des majors le fait qu'on puisse utiliser ad vitam notre visage et notre voix. Là on est un peu sur la même chose quelque part.
C'était pas mon point, en fait. Mon point, c'est de dire avoir une vraie voix, si tu veux, comme un Bruce Springsteen, un Johnny Hallyday, défunt, etc. T'as des voix qui sont vraiment connotées, qui sont très difficiles à reproduire avec de l'IA. Une voix où tu utilises de l'autotune ou un vocodeur, c'est déjà une voix qui est synthétique et qui est très très lissée
non.
qui est difficile et qui est pas difficile à reproduire, en fait.
Non, je suis pas d'accord. J'écoute récemment, je sais pas si vous connaissez George Carlin. Ça n'a rien à voir, c'est pas un chanteur. C'est un très grand du stand-up américain qui est mort en 2008 et qui a un phrasé particulier, vraiment très particulier. Et récemment, quelqu'un a mis en ligne, c'était sur TikTok et ça a été demandé, enfin non, pardon, c'était sur plusieurs plateformes et ça a été enlevé, on en trouve encore des traces sur TikTok. Quelqu'un qui s'est amusé à le reproduire vocalement avec des sketchs, avec des nouveaux textes. Alors les textes n'étaient pas bons comme lui pourrait l'être, mais par contre, en termes de phrasé, les respirations, mais c'était bluffant.
Mais,
donc tu te dis, quand tu arrives à ce niveau-là de qualité, tu te dis, mais le mec, on lui a refait faire des sketchs alors qu'il est, il est dans sa tombe. Tu peux comprendre que ces,
bien sûr,
ces chanteurs sont inquiets. C'est logique.
Mais, vous, mais amusez-vous,
ils ont,
amusez-vous.
Ils ont peur de deux choses. La première, c'est qu'ils ont peur, un peu comme les samples, qu'on puise dans leur base et qu'à partir de là, on prenne des morceaux et tout ça. C'est ça la première chose. Et la deuxième chose, de ce que je comprends, après, ils ont peur du clonage.
Oui.
C'est ça le.
Et puis, depuis ne plus avoir de droits sur leur musique.
Et troisième élément, qu'en plus, c'est ce qu'ils disent très précisément, de ne pas être rémunéré pour ça. Je pense que certains seraient d'accord, à la rigueur.
Oui.
S'il y avait les conditions qui vont avec. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. C'est du pillage absolu, du même acabit que, aujourd'hui, ironie du sort, Google demande à OpenAI d'arrêter de piller YouTube pour entraîner les modèles, vidéo, quoi. pour entraîner les modèles Sora. Donc, c'est fou.
Alors, tu faisais l'analogie, c'est vrai, avec les scénaristes et les comédiens. C'est vrai qu'il y a pas mal de points communs, mais il y a aussi des choses qui divergent. C'est-à-dire que là, n'importe qui, nous, demain, avec un logiciel, on peut refaire chanter Johnny Hallyday. Ou Michael Jackson. Ah, ça sera peut-être dégueulasse, sans doute, parce qu'on n'est pas des musiciens. Mais pour peu que tu aies une oreille et que tu sois un peu musicien, tu peux, et je vous invite à aller sur YouTube, vous tapez par exemple Johnny et I, vous allez vous retrouver avec des trucs, des chansons que Johnny n'a jamais chantées, bien sûr, avec un réalisme incroyable. Michael Jackson, pareil, Queen, Freddie Mercury, enfin, il en fait, voilà, il y a des spécialistes qui s'amusent à refaire vivre ces chanteurs.
Oui, mais ça reste pour l'instant, tu vois, minime, c'est quasiment c'est du domaine de l'expérimentation.
Tu as raison.
Là, on est dans le domaine de l'industriel. Enfin, on est peut-être
enfin, en fait, si tu veux, ça peut être l'industrialisation. Parce que prends le. Je ne sais pas si tu avais entendu, là, il y avait un grand moment sur un duo avec The Weeknd et Drake.
Oui.
Qui a quand même cartonné.
Et qui n'a pas existé.
Non, qui n'a pas existé, qui est complètement fictif. Mais tu le mets sur une plateforme à Spotify, je t'assure que ça va faire des hits, si tu veux. Oui, donc, ça t'arrive à un niveau industriel. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est perturbant. Tu vois, je faisais ça le week-end dernier avec un de mes garçons et on faisait des battles comme ça. On se donnait un genre, et tu vois, tu parlais de Suno tout à l'heure. On se donnait un genre, par exemple, tiens, on fait de la pop ou de la trap ou de la variété française et on devait créer chacun deux itérations et après on notait en fait celui qui avait la meilleure. Et il y a des productions qui sont fabuleuses. Après, quand même, même si ça s'améliore, si t'as l'oreille musicale, tu reconnais, et c'est beaucoup plus simple pour l'IA d'aller sur des chanteurs qui n'ont pas de voix, je suis désolé. Et donc, ça ramène un peu d'humanité dans tout ça. Après, ça ne veut pas dire que c'est bien de piller, pas du tout, mais ça va peut-être dire aux chanteurs, aux majors et aux producteurs, si tu veux, de dire, à un moment, arrêtez de nous prendre pour des...
C'est peut-être les majors aussi de prendre ça en main aussi, tu vois toutes celles qu'on connaît dans la musique, parce que là, alors peut-être qu'elles vont suivre, hein, le mouvement va peut-être prendre un peu d'ampleur, justement par rapport aux artistes qui sont cités, mais les majors aussi, à elles d'aller négocier avec les plateformes, d'aller voir un peu ces géants pour discuter de parce que là, 200 artistes face aux plateformes américaines, ça va, qu'est-ce que ça va faire? Rien, ils vont dire, on retire de nos plateformes, les Spotify, tout ça, si on les retire des plateformes,
si, il y a Nicki Minaj quand même, attention.
Pardon ?
Il y a Nicki Minaj quand même dans les consignés.
Le point qui est hyper intéressant, je trouve, je reprenais l'exemple que je donnais tout à l'heure d'OpenAI en train d'utiliser YouTube pour entraîner Sora. Enfin, c'est ironique au possible. Le fait est qu'on en arrive quand même à la question de fond. Finalement, on s'entraîne sur des modèles existants, enfin sur de l'existant, pour produire du synthétique, qui demain, peut-être dans 5-10 ans, finalement, il y aura des choses que tu ne sauras plus ce qui a vraiment existé.
C'est surtout que tu entraîneras du synthétique sur du synthétique.
Exactement. Ouais, et peut-être donc, la vraie question de la création se posera.
Et peut-être que demain, tu diras, tu taperas sur ton Spotify, j'ai envie d'avoir La Vie en Rose par Céline Dion.
Yann
Nakamura va sans doute la chanter pendant les JO. C'est pour ça on prend autre chose.
Pas de politique.
Enfin, là, c'est pas de la politique. Hein,
c'est parti, quand même, le sujet, mais bon.
Ouais, bon, on va pas rentrer là-dedans.
C'est ça.
On pourra en parler pendant des heures. Mais c'est vrai que, typiquement, on pourrait imaginer à ce moment-là, comme demain, peut-être, tu pourrais te créer ton propre roman avec une touche à la Stephen King, un dénouement, un autre qui ressemblera à un autre romancier. Mais peut-être que demain, tu pourras refaire chanter à Johnny Hallyday tout le répertoire de Goldman, par exemple.
Mais tu crois, c'est bien dire. Si on a fait une chanson de. De Brel à la Orelsan. C'est assez drôle.
Mais ouais, c'est drôle.
C'est pas mal, ça tient.
Je dis, c'est assez drôle.
Mais, incroyable.
Bah, après, la question de fond, c'est derrière ça, c'est que finalement, il y a déjà eu des duos virtuels. Je veux dire, la fille de Frank Sinatra qui a fait un duo avec son père, mais c'était bien fait, etc. C'était... Non, il y avait vraiment des duos de premier.
Oui, mais là, c'était l'original.
Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que cette logique-là de vouloir essayer de créer des choses qui n'existaient pas a toujours été un peu dans l'air du temps. Il y a toujours eu des choses qui existent. Ça simplifie les choses. La question de fond, finalement, là, c'est quoi? C'est juste la rémunération. Je veux dire, s'ils tombaient d'accord
c'est
sur
la
rémunération.
C'est pas que la rémunération, en fait. Parce qu'il y a un moment, t'as plus besoin d'eux. Quand tu regardes une plateforme comme Spotify, je pense que leur rêve, c'est un moment de pouvoir générer des artistes, comme tu génères aujourd'hui des influenceurs virtuels qui font déjà de l'argent, mais ne pas avoir à payer de royalties. C'est ça, en fait, le vrai sujet. C'est qu'à un moment, eux, les artistes, ils ont peur de ne plus avoir de royalties. Si tu fais ça, qu'est-ce qui change, en fait? La musique est bonne, le son de la voix est bon.
Tu auras juste quelques créateurs qui seront un peu originaux, qui seront.
Voilà.
Et on pourrait même imaginer, en plus, que le son sonne comme les gens veulent entendre un son.
Exactement.
C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on pourrait même avoir un truc qui soit trendy par rapport à un moment précis, tu vois, avec les sons d'aujourd'hui, parce qu'il y a eu une IA qui a étudié ce qui marchait, l'audience qui remontait sur Spotify, etc. Trouver un hit en puissance, en fait, grâce aux statistiques.
Bah, en fait, David Guetta, il a toujours dit, et moi j'ai toujours trouvé ça très smart, il dit, la musique, c'est des maths. Et il a complètement raison. Quand tu utilises un logiciel, c'est des maths, c'est des beats. Et donc, comment tu positionnes ça, c'est vraiment comment tu l'entends. Et moi, tu vois, ça fait déjà presque 10 ans, tu vois, quand je fais des conférences, je montre parfois une artiste virtuelle, je sais plus comment elle s'appelle, au Japon, tu connais ça, ce truc-là, Frédéric? Au Japon, ils vont voir depuis près de 10 ans déjà des concerts d'artistes virtuels.
Qui sont en hologramme, je crois.
Qui sont en hologramme, exactement. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, ça ne les choque absolument pas. Donc c'est une voix synthétique avec même un artiste synthétique. Ouais. Donc demain, ça va être de plus en plus. Donc ils ont raison d'avoir un peu peur, les artistes, parce qu'aujourd'hui, ils gagnaient au moins de l'argent sur les concerts. Mais quand tu te dis qu'aujourd'hui, ben, tu peux faire la voix, tu peux faire la musique, et tu peux même refaire une représentation de ces artistes-là, quelle est la place de l'artiste? C'est la vraie question.
Ouais, après, est-ce que tu as l'émotion? Est-ce que tu as des sensations d'un artiste
regarde les
en
concerts,
présence, tu vois, sur scène?
Moi, je n'irais pas voir quelqu'un de virtuel, mais regarde ces concerts-là.
Pourquoi pas?
C'est impressionnant.
Enfin, cela dit, on a vu un spectacle de Michael Jackson à Las Vegas. On est sortis de là, on était tout émus.
C'est quoi?
Avec le soleil.
Ouais.
Alors, il est magnifique.
Hein. C'est incroyable.
Il y a un spectacle en plus, mais c'est quand même basé sur la musique de Michael Jackson et c'est quand même incroyable. Après, là, qu'est-ce qui peut arriver? Moi, je pense que c'est une histoire de rémunération. Hein. Si c'est réussi.
Une histoire de création, je pense. C'est quand même
un moment où tu n'as plus. Oui, il y a les deux.
Mais là, au départ, parce qu'il va bien falloir avancer sur ce domaine-là, ou alors c'est interdire, c'est embaucher des armées d'avocats, interdire la reprise de leur musique sur les plateformes, mais là du coup ça fait moins d'audience. Enfin voilà, c'est
appelle Pirate Bay, tu sais.
Alors, dans les cas de figure, on l'a vu dans le reportage, il y a une loi, donc Elvis, je trouve ça.
Oui.
Le
Elvis. Ça veut dire ensuring likeness, voice and in my image security.
Act. Moi je trouve franchement qu'ils ont quand même travaillé déjà l'acronyme. Ouais. On peut au moins déjà leur donner ça.
C'était fait par une IA.
ChatGPT, trouve-moi un acronyme
avec Elvis.
Un truc sympa, vas-y.
Pour lutter contre l'IA.
Mais pourquoi pas?
On parlait de Spotify, on y reste. Ça me permet d'enchaîner avec ma deuxième actu, très intéressante. Spotify est en train de tester dans 2 pays, je crois que c'est au Royaume-Uni et en Australie, une fonctionnalité d'IA qui est assez intéressante. Imaginez, vous êtes sur votre Spotify, sur votre smartphone, et vous tapez en fait un prompt en disant ben voilà, j'ai envie d'écouter une playlist avec du son des années 80, tendance new wave, et plutôt féminine, et je sais pas moi, pour rajouter deux trois trucs comme ça, vous écrivez un prompt comme vous écrivez à ChatGPT, et vous avez Spotify qui vous sort votre playlist idéale suivant votre prompt. Et bien voilà, les Anglais et les Australiens sont en train de tester ça.
Les high playlists, alors tout à l'heure tu parlais de bientôt en Europe, on attend toujours Spotify DJ. Hein.
Oui, ils ont sorti une autre fonctionnalité en février dernier. Oui,
qui était un DJ virtuel.
Un DJ virtuel qui
fait les enchaînements et tout ça. C'est pas en France. Hein. Enfin, c'est pas en Europe et encore moins en France, parce qu'avec l'histoire de la tax streaming, je pense que. Mais par contre, c'est dans plein de pays. Hein. Je regardais, c'est même en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah, eux, ils ont le droit, mais nous, on n'a pas le droit. On verra quand est-ce que sortira ce AI spécial. En tout cas, c'est intéressant. Il faut rappeler, Spotify, c'est quand même près de 600 millions d'utilisateurs utilisateurs actifs mensuels, donc ça fait quand même une belle base. Et puis là, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va en plus redonner davantage de data, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais quand je dis, tiens, j'ai envie d'écouter, alors soit il y a leur playlist qui est déjà faite, années 80, rock, ou un Michael Jackson.
Après, voilà. Ils ont déjà de l'IA, hein, voilà. qui fabrique des playlists, oui. Le petit onglet pour vous. En fait, ils écoutent tout ce que vous écoutez, et puis ils essaient de briser
la recommandation.
Et puis
c'est la recommandation.
Là, voilà. Et puis même, ils repèrent, en fait. Les gens qui écoutent Michael Jackson écoutent plutôt ça, donc quand tu fais aller à la radio Michael Jackson, ils vont te mettre tout un ensemble de titres qui correspondent à ce que les gens, enfin voilà, c'est tout un calcul. Là, on rentre dans le prompt, et là, je trouve que ce qui est vraiment super bien fait, c'est que là, ça va leur faire, alors là, pour le coup, de la data par rapport au prompt, enfin voilà, faire ces liens entre musique et prompt, ils vont être encore plus précis. Et alors là, du coup, je rejoins presque l'actu d'avant, on va pouvoir dire, tiens, ce soir, j'ai envie d'une musique plutôt tranquille, romantique, une voix américaine des années 60, des chansons.
Ça serait passionnant de poser cette question au fondateur de Spotify, en fait. Qu'est-ce qu'il a en tête, quoi? Qu'est-ce qu'il imagine? C'est quoi le coup d'après? Est-ce que demain, sur Spotify, on pourra avoir des playlists? Voilà, qui serait généré par l'IA simplement, sans artiste. Et là, pour eux, c'est tout bénef.
Et en plus, ils expliquent
Moi, je pense qu'il a ça en tête quand même.
Oui, on dit que pour la petite histoire, en plus, tu peux affiner le prompteur. Une fois que tu as fait ta playlist, tu peux dire, oh non, enlève-moi toutes les chansons en français, ne mets-moi que des chansons en anglais ou en autre. Enfin voilà, on peut affiner au fil du temps, donc c'est assez astucieux.
Et tu pourrais dire, fais-moi une playlist avec des chansons françaises, mais avec la voix de Frank Sinatra. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais avant, tu créerais tes propres playlists avec tes propres goûts, en fait, ce qui serait assez fou.
Dans tous les cas de figure, avant même ça, je trouve que l'idée est super intéressante. Ouais. Déjà, quand on voit, par exemple, sur Deezer, il y a une fonction qui s'appelle Flow, qui permet déjà de faire en fonction de son mood, en fonction de ce qu'on a envie, etc., qui déjà génère des trucs
pas mal, qui est plutôt sympa.
Pas mal, moi j'aime bien, perso. Mais là, on va vraiment un cran d'après. Le côté, genre, vraiment, fais-moi le truc pour la soirée romantique qui va bien avec uniquement les morceaux que ma chérie aime, machin.
Exactement.
Là, tu peux tomber sur un truc super.
Ta soirée, fais-moi une heure des années 80, puis après tu fais une heure de soirée de house music, de musique électronique.
Prépare-moi un quart d'heure avec Patrick Sébastien.
Voilà.
Non, mais tu sors les serviettes.
Non, mais tu lui dis carrément de faire ta soirée.
Et
termine par une musique.
Mais oui,
et les lacs du Connemara à la fin.
Et bien sûr
toujours.
Alors, on n'est pas dans la même soirée.
Toujours.
Désolé.
Toujours.
Je pars avant la fin. Excusez-moi.
C'est pas beau. Bon.
Moi, je trouve que c'est une super idée.
Ouais, non, franchement, très beau. Il nous tarde de tester ça très vite.
Et du coup, il va falloir qu'on apprenne aussi, parce que ça aussi, moi, ce que j'aime bien dans cette idée, au-delà, bon, il va récupérer de la data, ce sera encore plus précis, c'est qu'on va nous aussi s'habituer encore, toujours dans notre apprentissage du prompt. Bah, on va commencer à apprendre aussi à mieux prompter et tout ça. Et ça, je trouve que là encore, on va avoir un apprentissage du prompt qui va être assez intéressant.
L'IA, donc, dans le domaine de la musique, c'est très sympa. Dans le domaine, en fait, de l'accélération des gouvernements, c'est plus compliqué. Et typiquement, l'État français, qui est à la traîne sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses services publics. En fait, c'est le constat d'un rapport sénatorial qui a été publié jeudi dernier. Une expérimentation balbutiante. Pourtant, l'IA, c'est la promesse d'un gain de temps, d'efficacité, notamment en matière de lutte contre la fraude. Nathan Cocampo nous présente ce sujet, et puis on revient juste après. Pour en débattre, bien sûr.
Détecter une piscine non déclarée sur le territoire grâce à des satellites. Voilà l'une des rares utilisations les plus abouties aujourd'hui de l'IA générative par les administrations fiscales. Les sénateurs saluent un succès incontestable pour un dispositif de 24 millions d'euros déjà rentabilisé. Autre projet encourageant pour les sénateurs, l'IAmendement, un outil d'IA qui permet au fisc d'automatiser le traitement d'informations légales et ce, avec la même qualité qu'un humain spécialiste. Le problème, c'est que mis à part ces exemples, les chatbots utilisés par les administrations fiscales sont jugées assez superficielles par les sénateurs qui pointent un accès limité aux données. Pour accélérer le développement de l'IA dans les services publics, il faut plus de moyens, pointent les sénateurs. Humains d'abord, avec plus de spécialistes, des data scientists trop peu nombreux aujourd'hui, seulement une dizaine au fisc. Technique ensuite, aujourd'hui les outils sont très loin d'être à la pointe de la technologie. Financier enfin, selon le dernier rapport du comité IA du gouvernement, l'État devrait investir 5 milliards d'euros par an pour que la France reste dans la course à l'intelligence. Intelligence artificielle.
Voilà, alors la question qu'on se pose, est-ce que la France, en tout cas l'État, ne devrait pas être on va dire, une référence dans ce domaine-là, finalement, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a des investissements qui sont mis sur la table régulièrement, etc. On se rend compte qu'il y a déjà des exemples qui sont concrets, hein. Le fisc, l'IA, il y a plein de choses pour détecter les piscines quand elles n'existent pas. Bon, ben voilà,
bah oui,
ça existe et ça marche depuis un moment.
Oui, mais bon, pour une piscine, tu t'attends quand même à l'administration fiscale qu'elle recoupe des fichiers dans tous les sens et qu'elle réussisse à voir un peu si les gens ont bien déclaré tous les allocations qu'ils peuvent revoir,
oui,
qu'ils peuvent recevoir. Enfin, tu vois, c'est ça qui manque aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on se rend compte, et c'est d'ailleurs ce que dit le rapport. Aujourd'hui, en gros, quand on travaille sur l'IA, les cas d'usage, on a quoi ? On a le côté améliorer la bureautique. Alors, on va nous aider à mieux faire de l'Excel, du Word, relire nos textes. Après, on a une dimension plus métier. Voilà, nous, par rapport à notre métier de journaliste, ça va être nous aider dans la recherche, nous aider dans la rédaction, nous aider à trouver des images, des vidéos, etc. Et puis après, il y a des nouveaux services qu'on peut inventer. Nous, ça peut être, pourquoi pas, ben voilà, cette émission est terminée. On l'a fait traduire par une IA. Elle est tout de suite
disponible. Et on fait parler en chinois.
Dans une heure, elle est disponible en chinois, en espagnol. Et puis, on la revend à des chaînes qui sont intéressées par ce programme. Voilà, c'est ce type de. Enfin, voilà, vraiment.
On la vendrait très cher, service. D'ailleurs.
Ouais, ce serait. Ouais,
si tu demanderais, des droits d'auteur assez importants.
Et je trouve. Et aujourd'hui, d'après ce que dit le rapport, c'est justement. On est dans ce côté bureautique, on améliore un peu certaines fonctions, mais dans la dimension métier, sortie des piscines et sortie, je crois qu'ils ont une autre application qui est détectée l'envoi de par courrier, de stupéfiants, choses comme ça. Ben, on est un peu dans le mou. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Bon, il y a une raison un peu budgétaire quand même, parce qu'il faut quand même faut avoir les gens pour le faire, faut faire tourner tout ça. Je pense qu'il y a un gros souci de culturel. C'est que, on se dit, tiens, mais si on fait ça, qu'est-ce qu'ils vont faire les 400 agents là, à côté? Et là, on a un gros souci. Et puis, on a un autre souci, c'est la compréhension, quoi,
enjeux, peut-être.
On a des gens qui ont des têtes très bien faites, mais là, l'IA, c'est cette appréhension, ils sont pas dans le monde de l'entreprise, ils ont un peu de mal.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question relative à la confidentialité des données ? Le fait de se dire, qu'est-ce qu'on va faire de ces données ? Qui on va choisir comme fournisseur ? Est-ce qu'on va encore prendre Microsoft et on va se faire taper sur les doigts ? La question des données de l'État. Quand on voit, par exemple, le scandale que tu peux avoir sur le HDS, justement, Health Data Hub, Microsoft et données de santé, peut-être qu'ils se disent, bon, on va peut-être
tirer tranquille. C'est pas un scandale, hein. C'est Microsoft répond à... Microsoft, c'est le seul à répondre à tout le cahier des charges.
Non, il n'y a pas eu de cahier des charges. Ils l'ont eu, non.
Non,
c'est pas ça. Non. Mais bon, c'est pas le sujet ici.
C'est dommage, c'est un débat intéressant, mais il nous reste 30 secondes. Avant l'info écho, ou alors
Moi, j'ai vu, je peux même te dire pourquoi certains n'ont pas répondu, parce qu'ils répondaient pas à certains critères établis pour la HDS.
Il y a juste un truc.
Vous pouvez pas répondre.
Moi, j'aurais juste pas parlé de technologie, en fait, et pour avoir un petit peu traîné à droite à gauche dans l'État. Avant même de parler d'IA, je pense qu'il faudrait déjà apprendre à la différence entre dépenser moins et dépenser mieux. Il y a une acculturation à faire, non pas sur que l'utilisation de l'IA, mais aussi c'est combien ça coûte. Quand à un moment tu as un devis qui est gonflé parce que c'est du budget public et que celui qui est en face n'a aucune idée de ce combien ça coûte et qui vient de le payer deux fois plus cher, moi ça me pose un problème parce que j'avais des devis et je suis désolé, ça coûte pas ça en fait.
Tu veux dire chez les deux fournisseurs principaux d'SS2I française ?
J'ai rien dit, mais il y a quand même une vraie compréhension de qu'est-ce que j'achète et à combien ça coûte. Quand à un moment tu vas payer, je prends un truc fictif, mais un site web, et qu'un site web, juste une page, ça te coûte 100 000 euros, bah peut-être qu'il faut apprendre à dépenser un peu mieux l'argent public, mais pour ça il faut apprendre que ça ne coûte pas 100 000 euros.
En
WordPress en plus. Donc ça, c'est un vrai sujet quand même.
Il faut peut-être aussi que tous ces dirigeants baignent dans cette culture de l'IA. Exactement. Se rendent compte des tenants et des aboutissants et de la puissance que ça peut avoir. Bien. C'est clair. Sans être trop expérimental, parce que effectivement, il y a plein de choses. Tu vois, on n'a pas envie d'être les premiers à tenter sur l'IA sur des choses, mais je suis sûr qu'il y a plein d'États qui font déjà pas mal de.
Mais non, mais même chez nous, la gendarmerie, c'était les premiers à utiliser l'open source, ils trouvaient pas justement ce qu'il fallait sur étagère chez les éditeurs classiques. Ils ont développé plein de logiciels sous open source. Bon, ça a été compliqué pour revenir à l'époque, moins de zéro informatique.
Informatique.
Non, mais ils avaient du mal quand tu allais interviewer ces gendarmes. Hein.
À l'époque, VLC existait déjà, pour vous dire. Frédéric Sibotel, Damien Douani, Salim Nassur sont avec nous pour débriefer l'actu. On revient dans un instant. Juste après l'info éco, on a encore plein de choses à évoquer. Évidemment, Tesla qui abandonnerait son véhicule low cost au profit d'un robot taxi. Voilà, ça c'est la dernière folie d'Elon Musk. On parlera aussi de TSMC qui investit avec les États-Unis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aux US. À tout de suite après l'info éco.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour du débrief de l'Actu Tech avec ce soir. Ils sont bavards tous les deux, ils discutent pendant la pub, pendant les infos. Je pense qu'on
fait
est
le débrief du débrief. Tu vois,
on est en train de voir une belle amitié naissante entre Salim Nassur et Damien Douani.
C'est une quinzaine d'années qu'on se connaît.
Ah oui, une quinzaine d'années, d'accord, mais c'est pour ça. Bah ok, je comprends mieux. Je ne savais pas que vous vous connaissiez depuis aussi longtemps.
Depuis tellement longtemps.
Ouais, je sais même plus.
Salim Nassur, donc fondateur de Mars, ex de Google. Damien Douani, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil Lab36. Et Frédéric Simotel, bien sûr, journaliste à BFM Business. On va maintenant parler de microprocesseurs et de l'infiniment petit. Vous le savez, cette bataille pour des processeurs de plus en plus petits. Il y a un acteur qui mène la danse, c'est TSMC, voilà. Et il faut savoir que TSMC va toucher beaucoup d'argent pour fabriquer ses puces aux États-Unis. Il faut savoir que cette chaîne d'approvisionnement mondial des puces est toujours en plein bouleversement. On le disait, le numéro un mondial du secteur se plaît de plus en plus aux États-Unis. Le géant taïwanais TSMC vient en effet d'y annoncer un nouvel investissement pour construire non pas une deuxième, mais bien une troisième usine dans le pays. Les explications de Léo Dumas.
Washington a mis le paquet pour décrocher cette troisième usine, 6,6 milliards de dollars de subventions pour convaincre TSMC d'ouvrir un site de plus en Arizona. Et l'enveloppe pourra même être alimentée avec 5 autres milliards sous la forme de prêts, des aides qui émanent du Chips and Science Act de Joe Biden. Il aura permis d'attirer déjà 65 milliards de dollars d'investissement du groupe taïwanais, dont 25 sur cette dernière usine. Elle produira les puces les plus avancées gravées en 2 nanomètres à partir de 2030, mais avant ça, TSMC aura largement démarré ses opérations en Arizona, où un premier site de fabrication doit ouvrir au début de l'année prochaine, puis un deuxième en 2028 pour produire là aussi des semi-conducteurs de dernière génération, de quoi permettre aux États-Unis de se protéger de futures pénuries et de se rapprocher de son objectif de 20% de part de marché, alors qu'Intel et Samsung ont aussi lancé la construction de fonderies dans le pays.
Voilà les explications de Léo Dumas pour ces investissements colossaux, quasiment 12 milliards pour construire des usines de semi-conducteurs aux États-Unis. Alors le modèle est toujours le même, Fred, c'est-à-dire que c'est un partage en fait entre des subventions massives. Là notamment c'est l'état de l'Arizona qui va accueillir ces usines. Donc on donne beaucoup d'argent à TSMC qui après investit énormément.
Ils vont investir plus de 65 milliards derrière parce que derrière, d'ailleurs, tiens, parlons d'ASML, ils vont acheter des machines ASML pour pouvoir graver. Ces machines-là...
ASML, donc géant européen lui fabrique
des moules.
Des moules,
des moules pour
ces processeurs.
Des moules qui font 150 tonnes.
Voilà,
ça reste un moule quand même.
Ça arrive en 6 parties par avion. Il faut 6 mois pour les installer. Il faut 6 mois pour les paramétrer. C'est des trucs
incroyables.
Fin 2025, on pourra réussir à les. Mais en tout cas, voilà, c'est l'argent, il est là-dedans. Après, il est dans tout le complexe. Il faut que ce soit isolé. Enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Non, là, ce que l'on voit, alors TSMC, ça fait le Covid a fait comprendre à TSMC qu'avoir des grandes usines à Taïwan, c'était bien. Ils se sont rendus compte quand même que les pays disaient « on serait bien qu'on ait un peu de production plus proche de chez nous, notamment aux États-Unis ». Donc ils ont décidé d'aller aux États-Unis, au Japon, en Allemagne aussi, à Dresde. Mais là encore, tout ça, c'est toujours pour 2025. Enfin voilà, on attend un peu les investissements. Et puis évidemment, Taïwan est toujours sous le joug, sous cette épée de Damoclès, bien d'avoir sûr. Un peu oui, une invasion économique.
De la reprise en main par la Chine.
Chinoise. Pour ceux, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours là qui me parlait de Hong Kong. Il me dit, pour ceux qui ne sont pas allés à Hong Kong depuis une dizaine d'années, pareil qu'aujourd'hui, c'est terrible, terrible. On est dans une ville chinoise alors que Hong Kong était une ville un peu New York,
Très libre.
Libre. Et donc, on imagine Taïwan s'y tomber dans ce travers-là. Et là, aujourd'hui, il faut que TSMC, de toute façon, pour leur stratégie, il faut qu'ils aient d'autres sites de production ailleurs. Après, ça tombe encore aux États-Unis. On a du mal en Europe à attirer. Alors, c'est vrai qu'au niveau européen, dire qu'on donnerait 12 milliards.
C'est une question de taille de marché aussi.
Non, mais c'est aussi une question de pognon. Oui. Il y a un moment, tu ne sais pas sortir 12 milliards comme ça pour
et puis
pour
attirer une entreprise. L'écosystème.
Il y a, il y a la question du marché, même si l'Europe est un grand marché, il y a la question quand même du potentiel du marché, et puis la question d'être coordonné sur les aides qui peuvent être amenées. Oui. Aujourd'hui, la commande publique, et si on dit publique, même au niveau européen, elle n'existe pas. Même si Bruno Le Maire saute sur sa chaise entre deux bouquins pour nous dire qu'il faut faire la commande publique européenne, aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc, très clairement, les Américains, eux, ont un modèle qui est intégré, et il y a une cohérence. Et il a demandé là-bas. Très
oui, et puis comme tu dis, en fait, il y a aussi y a la Maison Blanche qui décide. Alors que là, c'est un peu compliqué de décider, si tu veux. Et c'est vraiment stratégique, en fait, ce qu'ils sont en train de faire. Parce que tu vois, tu parles de TSMC. Moi, je pense que c'est encore plus stratégique pour les États-Unis que pour TSMC.
Et on n'évoque pas Intel aussi.
Pardon ? Non, mais bien sûr.
On n'évoque pas Intel.
Mais quand tu regardes aujourd'hui, comme tu l'as rapidement évoqué, la grosse crainte, si tu veux, de Nvidia, de Sam Altman, d'OpenAI, c'est d'avoir TSMC à côté de la Chine, en fait.
Oui, bien sûr.
Et aujourd'hui, le ramener aux États-Unis. D'ailleurs, vous avez vu ce projet-là, Stargate, de Sam Altman ?
Oui.
Projet à, ils veulent faire un data center de 100 milliards.
Si il est à 7 milliards pour les
c'est important de comprendre qu'ils ont vraiment compris qu'en fait la nouvelle currency, la nouvelle monnaie, c'est l'énergie. C'est ce que c'est plus tellement le software. C'est avant le software, c'est le hardware, parce qu'en fait sans le hardware, tu peux pas pousser l'IA aussi loin que tu voudrais. Et donc ils sont en train de le ramener.
Et puis ce hardware est consommateur d'énergie, donc ils évoquent même des centrales nucléaires.
Mais c'est peut-être là où nous en Europe, on aurait notre carte à jouer, parce que enfin notamment en France avec nos parce que pas l'Allemagne qui est encore beaucoup.
Et nos centrales, oui, si on n'avait pas perdu le savoir-faire, oui, c'est une bonne idée. Oui.
Ben voilà, non, mais c'est le gros souci. Alors là, on va pas repartir ça. Non, ouais, mais on va repartir dans toutes les années.
C'est une question d'investissement. On est toujours dans ce vœu pieux de se dire, et c'est dommage parce qu'encore une fois, on avait des vraies technologies, mais on n'a pas l'argent aujourd'hui pour le financer. Et quand tu regardes, et moi ça fait même à l'époque où j'étais encore chez Google, quand ici on mettait par exemple quelques millions, Google a investi des milliards depuis des années dans ses infrastructures. Donc tu ne peux plus rattraper ce retard. Et là, c'est la même chose qui est en train de se passer au niveau de l'IA. Il y a des dizaines, on va dire centaines de milliards qui sont investis. Là où nous, on va péniblement, au niveau de la France, puis de l'Europe, mettre quelques milliards.
Nous, en Allemagne, par exemple, on était obligé de faire une co-entreprise avec Bosch, avec NXP, avec Infineon, avec TSMC. Voilà. Et puis, évidemment, du prêt du gouvernement, enfin, de l'administration européenne, de l'Union européenne, et puis du gouvernement allemand, qui a accordé. Alors, c'est pas forcément des prêts, c'est des mesures fiscales, qui vont dire, voilà, vous embauchez des gens, vous serez moins taxés. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Après, c'est vrai qu'on a un souci d'écosystème, parce que nous, qui on va fournir? On va fournir qui? Les marchands de voitures. Voilà, donc c'est des puces à 16-20 nanomètres.
On a STMicro qui est là-dessus.
Tu pourrais déjà, parce que même en marchand de voitures, il y en a quand même quelques-uns en Europe qui s'exportent plutôt bien d'ailleurs.
Non, puis il faut une vraie volonté politique, l'a montré Biden aux États-Unis.
Ouais. Exactement.
En disant,
exactement.
On rapatrie. Alors c'est sûr que les États-Unis ont la Silicon Valley, c'est pas né n'importe où, ils ont quand même cette culture et tout ça, culture du silicium. Nous, on l'a un peu moins, mais c'est un peu regrettable de voir que au Japon, TSMC y va, beaucoup plus facilement qu'en Europe.
Après, quand on écoute un petit peu les propos de Maurice Chang, qui est le fondateur de TSMC, il dit que tout n'est pas rose en Arizona. C'est compliqué parce qu'il a du mal à trouver la main-d'œuvre qualifiée.
Oui, oui. Ah, c'est ce qu'il avait dit, il avait retardé d'ailleurs.
Ça coûte très très cher, beaucoup plus cher qu'en Chine ou à Taïwan. Donc finalement, toute l'équation n'est pas résolue. Et ça va prendre du temps.
Ce qui est logique qu'ils disent ça, parce que tu n'es pas rose pour que le billet soit plus vert, si tu veux. Donc, plus tu vas montrer les contraintes, plus tu vas augmenter ce que va mettre l'État américain. Et il a raison. C'est son jeu.
Mais est-ce que ce n'est pas une réalité aussi? Est-ce qu'il y a autant de...
Oui, bien sûr, c'est une réalité, mais au final, il y va. Parce qu'ils ont su mettre les moyens, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, mais j'arrête pas de le dire, c'est ce combat, il est... c'est pour la prochaine... je dirais pour le prochain siècle. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, comment tu positionnes à la fois les modèles de langage, à la fois le hardware, celui qui a ça, et c'est là, ça va être les États-Unis, c'est celui qui maîtrise le monde pendant très très longtemps.
Non, puis après, il faudra voir comment, dans quelles conditions TSMC va s'installer aussi là, donc il y a des investissements, parce que je trouve que quand tu discutes avec des Américains, les Américains, ils sont quand même très pro-américains. Là, c'est quand même un Taïwanais qui vient s'installer aux États-Unis. C'est pas la même.
Oui, ils sont très business aussi.
Tout ce qui est puis autour des brevets, comment les brevets vont être partagés. Enfin, il y a beaucoup de choses.
Après, Apple travaille depuis des années avec des entreprises comme TSMC, etc. Ça pose pas de problème particulier.
Oui, mais ils étaient chez eux.
Mais est-ce qu'on sait si par exemple TSMC va fabriquer les processeurs d'Apple? Parce qu'on sait qu'Apple essaie petit à petit de rapprocher un peu la production et l'assemblage de ces iPhones. Alors, ils ont du mal à y arriver, mais ils essaient de ne pas être dépendant à 100% de la Chine, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. On voit qu'ils se tournent vers l'Inde.
Moi, j'irais même plus loin. Est-ce qu'à un moment, Apple ne rachèterait pas TSMC ?
Peut-être.
Quand tu vois l'argent que tu as en cash dans les caisses, il y a un moment, tu peux te poser la question aussi. Est-ce qu'à un moment, à force de remettre tout ça, est-ce que tu ne rachètes pas cette capacité de production ?
C'est pas leur métier d'être industriel.
Non, mais enfin, Apple ou d'autres, ou un Microsoft, ou un Google, ou ce que tu veux, si tu veux. Bah, Google, ça fait longtemps qu'ils font leur TPU, hein, depuis longtemps.
Oui, oui.
Ils n'ont pas attendu Nvidia pour le faire. Tu vois ? Donc, ils sont vraiment en train de verticaliser, parce qu'ils ont vraiment compris que c'est hyper, en fait, tout ça est hyper connecté, et tu ne peux pas te permettre d'avoir un acteur, notamment qui puisse passer au niveau de la Chine. C'est hyper capital pour le master plan qu'ils ont. T'es obligé de tout contrôler, en fait.
Ce qui est inquiétant, c'est pour un avenir ou un jour. Non, mais un jour, aujourd'hui, on a une guerre économique sino-américaine où on bloque les Nvidia qui peuvent pas vendre en Chine et tout ça. Et qu'est-ce qui empêchera un jour, alors on reste des alliés quelque part, mais qu'est-ce qui empêchera un jour de dire bon, l'Europe, vous leur donnez que tel type de processeur.
Enfin,
moi, c'est ça.
Oui,
c'est
ça.
Surtout quand on vit ce monde qui est changeant, enfin, qui aurait pu imaginer ce qui se passe aujourd'hui. Il y a encore 5 ans.
Et puis on pourra avoir le retour, tu vois.
J'ai discuté l'autre jour avec Michel Vandenberg, qui est le patron du campus cyber et qui vient, à titre perso, d'investir dans une société qui s'appelle SecLab, qui fait des boîtiers sécurisés, pas connectés, enfin un truc pour l'industrie très fort. Mais il y a des composants à l'intérieur qui sont américains. Mais il a quand même dû s'assurer que les composants avaient toujours le droit de sortir du pays pour venir, non seulement en France pour être assemblés par SecLab, mais derrière pour être revendus. Parce que là, il y a le droit de regard.
Bien sûr.
Vous revendez ça à qui ?
Ah ouais.
Bon, tant que c'est eux. Enfin, tu vois, c'est.
Oui, donc il y a
Et s'il a plus ses composants.
Il y a une traçabilité, en fait, de tout ce que.
Il met la clé sous la porte. Hein, donc voilà, c'est pour ça que c'est important de voir un peu comment tout ça est fait et d'avoir un semblant de souveraineté, mais bon, ce sera compliqué.
Bon, dans l'actualité aussi, il nous reste 9 minutes. Le gros morceau de ce week-end, c'est Tesla, donc, qui abandonne son projet de voiture à bas prix. On l'attendait, cette voiture, pourtant. Hein, on est très déçus. Le groupe dirigé par Elon Musk travaillait donc sur ce nouveau véhicule grand public qui aurait pu rivaliser avec les constructeurs chinois. Très attendu sur le marché européen. Il aurait dû entrer en production l'année prochaine. Les explications de Raphaël Couder.
C'était un projet complètement confidentiel, mais un projet qui avait quand même commencé à se concrétiser. En janvier, Tesla avait envoyé des demandes de devis à ses fournisseurs pour produire cette nouvelle voiture à partir de la mi-2025. Voiture qui était décrite en interne comme un crossover compact d'entrée de gamme et donc attendue à un tarif abordable. On le sait, Elon Musk cherche depuis longtemps à produire des voitures moins chères. En 2020, il y a 4 ans, il promettait déjà une voiture à $25,000. Ce projet devait donc représenter l'arrivée de la marque américaine sur le marché grand public. On le sait, c'est un enjeu important pour Tesla. La concurrence est de plus en plus forte. Le chinois BYD a par exemple dépassé l'américain au rang de premier constructeur mondial de voitures électriques au dernier trimestre de l'année dernière. Depuis, Tesla a repris la première place, mais voilà, les challengers se multiplient. Le géant du smartphone Xiaomi vient lui aussi de sortir son premier modèle à bas prix et le groupe a déjà vendu 100 000 unités sur les premières 48 heures de précommande.
Voilà, donc grosse déception. On attendait cette voiture dans 2 ou 3 ans. Voilà, ça fait des années qu'on murmurait que Elon Musk avait ça dans ses cartons. Une petite citadine qui, en tout cas, plus petite que la Model 3 ou la Model Y, qui aurait pu envahir le marché européen. Parce que c'est vrai qu'en France, bon, il y a beaucoup de Model 3 et de Model Y, mais ce sont quand même de gros véhicules qui sont pas forcément adaptés aux infrastructures de l'Europe, quoi, en quelque sorte de la France. Et là, visiblement, patatras, c'est pas le cas.
Mais même d'un point de vue économique, hein, tous les grands constructeurs, alors genre j'enlève Porsche et Ferrari, hein, mais tous les Renault, Volkswagen, tout ça, ils ont besoin de leur modèle un peu vachalé. Peugeot a sa 205, 200, enfin a eu sa 205, sa 208. Volkswagen a eu sa Golf. Voilà, c'est le modèle qui va être produit en grande masse, on va en vendre plein, on va faire une marge importante dessus, même vendu à petit prix. Et là, et c'est ce qui fait vivre le reste. C'est ça qui permet d'avoir d'avoir un peu plus de fonds pour développer ailleurs. Et là aujourd'hui, et Renault a eu avec sa Clio, avec Elon Musk, il a pas ce modèle vache à lait. Alors il a sa modèle Y qu'il vend bien, mais voilà, il n'y a pas le modèle un peu de mass market comme espéré.
Il n'en a pas besoin.
Mais je pense qu'il n'en a pas besoin.
C'est pas son positionnement.
C'est pas son modèle.
Tu compares deux choses qui sont pour moi pas comparables. C'est un peu comme quand tu vois une prestation. Non, mais tu vois, ton exemple, c'est toujours celui que je prends quand tu vois une prestation. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui va te dire, ah, mais c'est cher. Tu dis, non, mais là, t'achètes une Tesla, t'achètes pas une Renault. Et tu vas pas comparer une Renault avec une Tesla. Ça n'a rien à voir, en fait.
Je te fais le pari que sur 20 ans, il est plus rentable.
Mais non, parce que sinon, Porsche aurait sorti une 4L.
Porsche, ils ont une production beaucoup plus petite que Tesla.
Mais justement, c'est là où c'est fort. C'est-à-dire qu'à un moment, tu arrives à faire quand même du mass product avec un produit haut de gamme. C'est du Apple, en fait, ce qu'il fait.
C'est du Apple.
Il te fait un iPhone qui coûte hyper cher, mais qui est vendu en masse.
Ouais, on est plus à 1500 euros, hein. On est à 25 000 ou 30 000 dollars.
25 000, c'est rien.
Non, je te dis que toutes les courbes montrent que si dans un constructeur, pour un mass market, si tu n'as pas un modèle vache à lait,
rejoindre les propos de Fred.
Regarde, Jaguar, c'est la même chose.
Quand on voit la stratégie de Tesla, les premières Tesla coûtaient très très cher, 150 000 dollars. Et petit à petit, il a atterri à un prix qui avoisine les 50 000 et 40 000 dollars. Non, mais pour terminer, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que le step inférieur, c'était de sortir une voiture à 25-30 000 dollars.
C'est super smart ce qu'il fait. Parce qu'en fait, s'il descend, il va en frontal avec les Chinois. Il ne peut pas gagner. Aujourd'hui, avec ce qu'a fait Xiaomi.
Mais Salim, est-ce qu'il n'a pas changé de stratégie? Est-ce qu'au départ, il ne devait pas sortir cette voiture?
Mais à un moment,
mais quand il a vu l'arrivée du marché chinois et tous ses concurrents.
Au final, qu'est-ce qu'il a fait récemment? Il a sorti Cybertruck. C'est l'inverse de cette stratégie.
Mais bien sûr.
Il a sorti un truc cher, énorme, fait pour le marché américain, et qui coûte une blinde. Là, il parle de robotaxi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a voulu faire une compte? Parce que certains remarquent qu'il a dit le 8-8, mais il n'a pas dit de quelle année. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira.
J'espère que ce sera
Du coup, faut pas dire qu'il va aller sur un marché concurrencer les autres grandes marques automobiles. Faut arrêter.
Mais aujourd'hui, non.
Il va rester dans un niveau de haut de gamme. Et moi, je pense que dans un niveau de haut de gamme, il va peu à peu se faire manger par les Mercedes, par les
hauts de gamme. Quelle est la voiture la plus vendue en Europe? Voiture électrique la plus vendue aujourd'hui en Europe? C'est le modèle Y. 19 000 immatriculations. De loin, au-delà de tout, n'importe quel autre constructeur. Tu vois?
19 000.
Ouais. Et donc là, aujourd'hui...
On est loin du mass market et des 230 000...
Par rapport à de la voiture électrique, si. C'est du mass market.
Mais le jour où les autres vont baisser, vont rentrer dans le monde avec des modèles...
Mais les gens ne pourront pas beaucoup baisser parce qu'une voiture ne va pas coûter 10 000 euros. Une voiture de ce standing. Aujourd'hui,
regarde, il y a les Chinois, je ne sais plus quel Chinois avait annoncé qu'il projetait de sortir une voiture à 10 000 euros.
Oui, mais ce n'est pas le même marché.
Bien sûr, mais si tu veux attaquer, aujourd'hui, on arrive un peu à un plateau. C'est-à-dire que tous ceux qui voulaient une voiture électrique l'ont plus ou moins.
Mm-hmm. Tu peux le trouver au catalogue, oui.
Le frein, c'est le prix. Pour les autres, c'est-à-dire que,
non, pas que
et je sais pas si vous avez vu, il y a un rebond du thermique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que finalement, on est en bout de course, on a envie de changer de véhicule, on se tourne vers une électrique. Alors on peut avoir peur de l'autonomie de la voiture, des bornes, etc. Enfin, de tout le process, parce que ça change pas mal de choses. Mais parce qu'une thermique, ça coûte moins cher aussi.
Mais c'est pas que ça. C'est qu'à un moment, faut être conscient que quand on achète une voiture électrique, c'est soit parce que tu peux la charger au bureau, et ça veut dire que dans ton bureau il y a des trucs, ou soit tu peux la charger chez toi. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans ce cas de figure.
Donc ça veut dire que tu as un pavillon. Ou ça veut dire que tu as le sous-sol de ton immeuble et câblé.
Et donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans ce cas de figure.
Donc déjà, tu ne prends qu'à Paris, par exemple, ça n'existe pas. Donc déjà, il y a ce premier point. Après, il y a la cible aussi. De qui peut se payer ça? Oui, tu peux avoir des voitures électriques sur tous les marchés aujourd'hui, mais effectivement, le rappel, on va dire, ou le parallèle avec Apple, tu vas acheter l'expérience Tesla, c'est-à-dire en gros le parc de recharge, la voiture elle-même, tout ce qui va bien, etc. Et donc la cible est pas la même. Donc à mon sens, c'est un non-sens de faire une voiture pas une Tesla pas chère aujourd'hui.
Complètement, c'est un non-sens.
C'est un non-sens s'il ne voulait pas. Et donc c'est plus la peine d'aller concurrencer les grands constructeurs. Il va rester dans son domaine du haut de gamme ou milieu haut de gamme, et là il va se prendre il va se prendre de plein fouet les Mercedes, les Audi, les BMW qui sont en train de remonter, parce que les Mercedes, quand ils vont commencer à se lancer dans la voiture électrique, et là, pour moi, et ce pourquoi il voulait aller vers le modèle 2, c'est justement, il s'est dit il faut que j'ai un petit modèle.
Excusez-moi, plutôt... j'aimerais qu'on avance, il nous reste 2 minutes. Est-ce que c'est pas justement la réponse, le tweet qu'il a publié oui. Ce week-end en disant robot on se tourne vers les robots taxis. Alors, moi, en tout cas, c'est pas son tweet. Hein. Il y aura des nouveautés. Non,
mais qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça ? Il remet l'accent sur nous, on maîtrise la techno. Nous, on est les bons. Et aujourd'hui, en face, c'est pas probant. Merco, c'est peut-être là qu'il Mercedes, BMW ou autre, très honnêtement, ils ont fait des vrais efforts. Ça a vachement évolué. Mais le système embarqué, pas encore au niveau de ce que tu peux trouver sur Tesla. C'est pas encore parfait, on n'y est pas encore. Mais ils ont fait énormément de progrès. Mercedes a fait beaucoup de progrès.
Le confort de la voiture est complètement différent pour le même prix.
Non mais en fait là tu parles de
confort. Quand tu te balades dans les communautés Tesla, je te jure que vraiment pour eux c'est la même chose que quand tu achetais un Mac en 1984.
Mais bien
tu
sûr.
Es un défricheur.
Mais
tu
bien
es,
sûr.
Tu as l'étendard, tu vois, du défricheur contre les thermiques.
Rappelle-moi la part de marché des Mac contre la part de marché des PC.
Rappelle-moi la part de l'iPhone et la valeur gagnée par l'iPhone, 20%.
Mais l'iPhone, on est
80% de la valeur.
Oui, mais on est à des appareils à 1 500 $. Là, tu parles de.
C'est pareil, 1 500 $.
Mais non,
1 500 $, quand tu gagnes 1 500 € par mois,
eh ben non, c'est déconnant. De produits à 20 000
c'est la même chose.
$10 000.
Tu vas, acheter une voiture à 20 ou 30 000 quand tu gagnes 20 ou 30 000.
Non, mais après, attendez, on parle de dizaines de milliers d'euros. Rappelons qu'aujourd'hui, on n'achète plus une voiture cash. La plupart du temps, c'est 300, 400 euros. L'iPhone, c'est 30 ou 40 euros par mois. Il y a plein de trucs. Donc, le prix, c'est ce qui masque un petit peu la forêt, finalement.
Enfin, je pense. Si je peux. Il revient juste à son idée de base. Son idée de base, c'est moi, je veux faire une voiture qui est autonome. Et en fait, il y avait deux idées de base. Quand tu regardes même dans le mission statement de Tesla, il a fait le premier et il a réussi. C'est moi, je veux faire une voiture qui va emmener la planète à être beaucoup plus sustainable, donc beaucoup plus green. Donc, il a poussé tous les autres constructeurs à se mettre à l'électrique. Oui ou non ? Donc il a rempli déjà cette tâche là. Le deuxième truc c'est je veux rendre une voiture
de valeur logistique et la chaîne de valeur
enfin, non mais d'accord OK mais il a poussé tous les constructeurs alors qu'il
rigole au
début.
C'est clair, on n'aurait pas eu Tesla.
Il a fait déjà la première chose qu'il a dit qu'il ferait. La deuxième c'est moi je veux faire une voiture qui roule toute seule, autonome. Et c'est ce deuxième truc qu'il est en train de chercher.
Enfin, moi, je me méfie. Ça fait des années.
Mais évidemment, ouais. Non, évidemment.
C'est juste difficile. Un truc, ça fait des années qu'il nous promet la voiture autonome.
Oui, c'est vrai. Encore une fois, moi, j'aime bien.
Je suis encore un peu
dubitatif. Il y a du pour et du contre. Non, mais d'accord. Mais pareil, quand il avait lancé SpaceX, on avait dit c'est pas possible. Quand il a lancé Tesla, c'est pas possible. Donc oui, aujourd'hui, à date, c'est pas possible de faire cette voiture autonome.
Il parle d'autonomie, mais il parle surtout de modularité. T'as vu, il dit surtout la voiture, c'est la voiture à tout faire. On pourra se reposer, on pourra travailler, on pourra tout ça. Donc
il faut des rêveurs qui poussent l'industrie à aller un peu plus loin.
Vous savez quoi, quand je lève les mains comme ça, c'est pas parce que je suis menacé, c'est parce que c'est en fait je suis menacé par Fabien, par le réalisateur qui me dit le sommaire est prêt.
Par Léa et son tech flash.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et quand on me dit le sommaire est prêt, c'est pas bon. Hein, vous savez, c'est moi qui vous le dis. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Merci Salim, toujours un plaisir. Mars, bien évidemment.
Avec deux A. Parce qu'à chaque fois, on va croire que c'est Elon.
Mais non.
Mars avec deux A.
C'est ça. Ou alors la barre chocolatée, mais non.
Tu sais pas quoi, attends, jusque là, le jour, il y a quelqu'un qui vient pour un stage.
Ça gueule horrible.
Et il me raconte qu'il pensait qu'il allait chez Mars, la barre chocolatée. Donc non, Mars est avec deux A.
Voilà,
ça
n'a rien.
Je fais pas de Mars.
Voilà, vous serez déçus si vous aimez les sucreries. Mais en revanche, si vous aimez l'IA, là, vous allez vous régaler.
L'IA, les formations.
Merci beaucoup Damien Douany. Ouais, et plaisir Fred. Vous restez avec nous. Allez, Tech & Co. Le sommaire, Fabien, tu peux y aller. On est bon, là. Le fondateur de VLC dans Tech & Co, c'est un événement. Un logiciel qu'on a toutes et tous, à la fois peut-être sur son PC, sur son Mac, mais sur son iPhone, qui nous a permis de regarder toutes les vidéos. Il sera avec nous. Et puis, on fera un point aussi sur un rendez-vous qui s'est déroulé la semaine dernière. On y était, hein, BFM Business et Tech & Co. La AWS Summit. Vous le savez, le cloud de Amazon. On en parlera avec une porte-parole d'Amazon qui sera avec nous. On fera le bilan de cette édition 2024. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite et merci de nous suivre.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Voilà, il est 21h02, le retour de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business, le Tech Flash, chaque soir, en 3 minutes, ce qu'il faut retenir de l'actu tech, et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous. La course aux semi-conducteurs bat son plein et Joe Biden sort les grands moyens. TSMC va toucher plus de 11 milliards de dollars pour fabriquer ses puces aux États-Unis. En contrepartie, le géant va augmenter ses investissements de 40, il passe à 65 milliards de dollars. Avec cette subvention, TSMC a prévu une troisième usine en plus des deux déjà en chantier. Les États-Unis veulent se protéger de futures pénuries. Aujourd'hui, les Américains sont encore très dépendants de l'Asie pour ses composants. Synchron se prépare à entrer dans la course. Le rival de Neuralink va commencer un essai clinique. Il lance lundi prochain un formulaire en ligne pour recruter des patients. Une dizaine de candidats seront choisis. La start-up new-yorkaise fondée en 2016 veut montrer qu'Elon Musk n'est pas le seul à briller dans le domaine de la neurotechnologie. Elle compte parmi ses investisseurs Bill Gates et Jeff Bezos. Dans l'intelligence artificielle, Microsoft va ouvrir un centre à Londres dirigé par le cofondateur de Google DeepMind que Microsoft a embauché le mois dernier. Le géant s'est engagé à investir 2,9 milliards d'euros en Grande-Bretagne. Une victoire pour le pays qui cherche à renforcer ses références en tant que superpuissance technologique. Pour rappel, le Royaume-Uni avait organisé en novembre dernier le premier sommet mondial sur la sécurité de l'IA. Et puis, chose rare chez Apple, près de 700 salariés licenciés aux États-Unis. Plus de la moitié d'entre eux travaillaient sur l'Apple Car. D'autres étaient liés à la production d'écrans micro-LED pour l'Apple Watch. Deux gros projets qu'Apple a abandonnés ces dernières semaines. Le reste des salariés de ces deux divisions ont été réaffectés sur d'autres missions, comme l'IA et la robotique, qui intéressent davantage les dirigeants. Et pour finir, votre rendez-vous auto sur BFM Business. Un nouvel épisode d'En route pour demain est disponible en podcast et en replay sur le site techandco.com. Et cette semaine, on parle du boom de la voiture sans permis. Et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
Nous accueillons donc notre invité dans cette spéciale 100P d'En route pour demain, Nicolas Meunier, bonjour.
Bonjour Pauline.
Journaliste spécialisé dans l'automobile, rédacteur en chef de Génération sans permis. Alors, comment on explique ce retour en grâce des voitures sans permis ?
Déjà, on a eu une réglementation qui a changé il y a pas loin d'une dizaine d'années où on pouvait initialement conduire les voitures sans permis à partir de 16 ans. Et depuis 10 ans, c'est 14 ans. Donc ça élargit la clientèle, c'est-à-dire que avant, si on achetait une voiture sans permis pour son enfant, ça servait 2 ans avant qu'il passe sans permis. Maintenant, c'est 4 ans. Donc, c'est un investissement qui peut être plus facilement rentabilisé. Et ça fait réfléchir les parents. Et aussi, il y a le côté plus sécurisant qu'un scooter. Donc, les deux facteurs combinés, ça fait que vraiment la catégorie est beaucoup plus attrayante. Et surtout, il y a 3 ans, le lancement de la Citroën Ami. Citroën, ils avaient les moyens de communication que n'ont pas les plus petits constructeurs traditionnels du segment, donc ils ont pu faire de la pub télé, ils ont pu communiquer très largement sur les arrêts de bus, etc.
Voilà, une émission à retrouver comme beaucoup d'autres sur la plateforme Tech & Co, sur l'appli RMC BFM Play, sur YouTube aussi, évidemment. N'hésitez pas à nous suivre et à regarder tout cela. 21h05, tiens, justement, regardez une vidéo. Depuis quelques années, c'est grâce à un logiciel français. Eh bien, nous avons son cofondateur avec nous, le président de Vidéolan, Jean-Baptiste Kampf, qui nous rejoint tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Jean-Baptiste, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, Jean-Baptiste Kampf. Donc, vous êtes le président de Vidéolan, qui est le fameux éditeur de VLC. VLC, ça parle quand même à beaucoup, beaucoup d'entre nous depuis de très nombreuses années. Moi, je me souviens que c'était grâce à vous sur le PC. À l'époque, on pouvait regarder toutes les vidéos. À l'époque, il y avait Windows Media Player, c'était une usine à gaz, ça marchait pas, etc. Et puis VLC, on téléchargeait très facilement, très rapidement, et on lançait n'importe quelle vidéo, n'importe quel son, ça marchait. C'était ça un peu la spécificité. Rappelez-nous un petit peu votre parcours, parce que VLC a été fondé, je crois, en 1996. Vous n'en êtes pas le cofondateur, vous êtes le président de VLC aujourd'hui.
En fait, il n'y a pas de créateur à VLC, donc ça, les gens, ils n'aiment pas trop, parce qu'ils aiment bien avoir un héros.
Il n'y a pas d'incarnant, en fait.
En fait, moi, j'ai créé l'association Vidéolan.
Ok.
En 2007, et ça fait depuis 2007 que je gère et que j'ai fait croître le logiciel à ce qu'il est aujourd'hui. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de créateur, parce qu'à l'origine, c'est un projet étudiant qui est un projet un petit peu compliqué et qui était pour faire un nouveau réseau à l'école centrale Paris. Ils avaient besoin d'une justification pour acheter un nouveau réseau. Ouais. Et donc, ils se sont dit, si on mettait de la vidéo sur un réseau, on aura besoin d'un réseau plus rapide. Et c'est dans les années 95-96, on est avec des 486 DX à 65 MHz. Donc vraiment, on est habitué à faire de la télé sur des décodeurs énormes. Et donc, en fait, c'est un projet complètement fou. Et le projet, Mais ils avaient besoin d'un nouveau réseau, ils voulaient faire un nouveau réseau, ils lancent ce projet. Et ce projet, il aurait pu s'arrêter là, en 98. Et en 98, fin 98, début 99, il y a quelques développeurs, mais qui ne sont même pas la première équipe, oui. qui se disent, bah, si on réutilisait ça, et si on lançait ça, parce qu'il y a d'autres gens qui vont vouloir faire de la vidéo sur IP, vidéo sur un réseau local.
Et à l'époque, personne ne connaissait VLC. C'est cette nouvelle équipe qui l'a
même
boosté.
Pas. À l'époque, en fait, le VLC n'existe même pas. C'est oui. tout un logiciel qui s'appelle Videolan. Il y a un client qui s'appelle Videolan Client, qui deviendra VLC. C'est là que deviennent les lettres. Il y avait un serveur qui s'appelait VLS. Et puis, il y avait plein d'autres, notamment plein de choses sur le réseau, sur les routeurs. Donc, c'était vraiment une solution complète de streaming vidéo avant l'heure. Et c'était pas encore open source. L'école centrale ne voulait pas à l'époque, enfin ne se comprenait pas l'open source. On peut pas leur en vouloir en 97. Et en 2001, l'école centrale le rend open source. Et là, c'est là que ça croît. Et moi, j'arrive à Centrale en 2003, donc 2 ans après la passage en open source. Et à ce moment-là, je fais partie de l'équipe du réseau. Et à un moment, en fait, cette association d'étudiants, en fait, ouais. VLC est trop gros. Devient trop gros. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est le travail justement de sortir VLC de l'École Centrale Paris et devenir quelque chose un peu plus professionnel.
Tout à fait. Avec un business aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure. Vous allez nous raconter comment ça marche. Juste un chiffre, toute version et tout support confondu, VLC a dépassé les 5 milliards de téléchargements.
Alors oui, c'est exact, mais c'est une sous-estimation très très forte. C'est 5 milliards sur notre site web. Comme c'est gratuit et comme c'est open source, évidemment, il y a...
Plein de gens qui se l'ont téléchargé.
Bien sûr, sur n'importe quel portail, télécharger.com, 01 01 01 net et toutes ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a 5 milliards d'utilisateurs de VLC. Aujourd'hui, on pourrait se dire qu'il y a entre 400 et 600 millions d'utilisateurs réguliers de VLC.
Ce qui est beaucoup déjà.
Bon, ce que je dis, c'est VLC, c'est le logiciel français le plus utilisé au monde. Ouais. Et le moins rentable. mais c'est vrai, en fait...
Vous avez tout résumé, là, avec cette histoire-là.
En fait, c'est monstrueux, mais en même temps, ça n'aurait pas été gratuit. Est-ce que ça aurait succès ?
C'est ça.
Mais après, bon, il y a beaucoup de gens qui font des logiciels gratuits et qui ne sont pas succès. En fait, VLC, et c'est comme vous l'avez dit, les gens l'utilisent parce que ça marche.
Ouais. Et parce que c'est simple.
Et parce que c'est simple. Et aujourd'hui, vous utilisez VLC tout le temps, alors ici dans les plateaux de télé, donc évidemment partout, mais en fait, beaucoup de gens utilisent le moteur de VLC et un autre moteur qui est dans VLC qui s'appelle FFmpeg et qui fait tourner toute la vidéo, tout ce que vous voyez sur YouTube, tout ce que vous voyez sur Netflix, etc. Tout ça, c'est des technologies open source qui sont liées au projet VLC.
Incroyable, ce qui permet de lire n'importe quel fichier vidéo sur VLC. Quand sur VLC ça marche pas, ça en général on sait que c'est compliqué.
Alors c'est pas toujours vrai, mais c'est vrai que en fait dans beaucoup d'endroits, si ça marche pas dans VLC, c'est que le fichier est cassé.
Mais c'est ça, en gros c'est ça. Juste, vous avez dit que vous êtes le logiciel français le plus téléchargé au monde, mais qui gagne pas d'argent. C'est quoi le modèle économique justement
C'est simple, il y en a pas.
Il n'y en a pas, d'accord.
Donc en fait, VLC est édité par une association loi 1901, tout ce qu'il y a de plus française, qui vit des dons sur le site web. On y va, il y a un petit bouton pour payer et voilà.
Là, écoutez, profitez-en. Il y a des gens qui vous écoutent et qui vous regardent.
Alors, ceci étant dit, moi j'ai plusieurs business autour de VLC qui sont des petites sociétés en fait qui font plutôt du conseil, de l'intégration et qui doivent employer, en tout cas les sociétés que moi j'ai, c'est une cinquantaine de personnes et qui font que du travail autour de VLC et des technologies open source.
C'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit si, de toute façon on ne sait pas, peut-être que si VLC avait été payant ça n'aurait pas marché. Ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle économique sur un lecteur vidéo comme ça,
en fait,
même s'il est le plus populaire, l'un des plus populaires au monde.
C'est très compliqué. En fait, aujourd'hui, il n'existe pas de business model B2C open source. Tous les business autour de l'open source et du logiciel libre sont autour de soit des outils, en fait, vraiment, des frameworks, du Python, d'IA, du Redis, des bases de données, soit de l'hébergement de SaaS. Donc il y a plein de SaaS open source, mais en fait, c'est beaucoup plus facile de payer que de l'héberger soi-même. Mm-hmm. Mais pour du B2C ou du B2Pro, c'est très difficile. Parce que. En fait, sortir sa carte bleue, c'est difficile. Donc, certains arrivent à payer en faisant des dons, mais c'est très difficile sur VLC. Et puis surtout, le lecteur vidéo, on y passe un peu moins de temps que son navigateur qu'on a customisé. Donc, en fait, on peut switcher de l'un à l'autre.
Mais quand vous disiez tout à l'heure que il y a le B2B notamment, vous auriez pas pu vendre votre lecteur, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, à Netflix ? Ça aurait pas pu être une bonne... Un bon deal
par exemple, pour être très honnête, j'ai parlé des sociétés qui font du consulting autour de VLC, FFmpeg et d'autres technologies open source vidéo. Soyons très clairs, mais les gens, ce que je fais, c'est de la R&D pour Netflix, pour Google, pour Amazon, pour Facebook. C'est-à-dire que toute cette partie-là, mes clients sont les
gars. Et vous êtes reconnu pour ça ?
Oui. Moi, j'ai pas. J'ai quasiment aucun business en France. J'ai peut-être moins de 4 à, c'est 4-5% de mon business.
Mais les Netflix, les Google, ouais, les Meta.
Tout à fait, Meta.
D'accord. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent à améliorer toutes les on va dire les compressions vidéo pour que ça prenne le moins de bande passante, parce que c'est toujours ça en fait aujourd'hui le problème, c'est la qualité de la qualité. On devient de plus en plus exigeant, on est à la 4K, mais il faut faire attention, voilà, il y a une certaine frugalité de la bande passante, etc. L'idée, c'est de trouver la compression idéale par rapport à la qualité.
Alors c'est exactement ça. Bon, la 4K, c'est un peu has-been, hein. Là on est les JO de Paris, on parle 8K, HDR, faire une démo 4K en 2024, c'est un peu has-been, mais oui, c'est exactement...
Non, mais je parlais de Netflix qui est en 4K.
En fait, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il y a toujours des nouveaux codecs, des nouveaux formats de compression. Il y en a un qui est sorti cette année, il y en a plusieurs qui sortent l'année prochaine. Donc, on a besoin de plus de compression, plus de définition. Et surtout, en fait, le problème, c'est que c'est très très compliqué, parce que chaque nouveau format, mm-hmm. ça rajoute pas un format de plus, ça rajoute toute la combinatoire avec tous les formats précédents, et donc en fait c'est un monde qui est non seulement très compliqué mais aussi très complexe. Donc faut connaître beaucoup de choses, et la connaissance, la véritable connaissance de toutes ces technos, c'est peut-être une quinzaine de personnes en France, une quinzaine aux États-Unis et quelques-uns en Chine. Donc il y a vraiment pas grand monde qui est vraiment là pour développer. Et donc, ils ont besoin de nous.
Mais VLC, qui développe les mises à jour de VLC? Ce sont des ingénieurs qui sont payés ou qui font ça pour le plaisir?
Eh bien, ça dépend. En fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, que moi, j'emploie dans mes sociétés. Et puis, il y a des gens, ils font ça parce qu'ils sont étudiants, parce qu'ils pensent que c'est intéressant. Et la plupart du développement de VLC, et pendant moi, la plupart du temps où j'ai développé sur VLC, ouais. parce que je dois être un des plus gros contributeurs, je le faisais sur mon temps libre, le soir et le week-end. Voilà. Et en fait, c'est une formation incroyable. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à gérer VLC quand j'avais 24 ans. Évidemment, techniquement, c'est très compliqué, mais en fait, tout ce qui est autour, c'est un MBA accéléré de gestion de open source.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des projets, comme par exemple proposer, alors c'est ce qu'on a lu sur le web ces derniers jours, des chaînes de streaming gratuites.
Tout à fait. En fait, aujourd'hui, on bosse sur plein de trucs dans VLC. Malheureusement, je sais jamais quand ça sort, parce que ça sort quand nous on est assez contents, parce que j'ai pas de département marketing qui me dit quand est-ce qu'il faut que ça sorte. Mais effectivement, on travaille sur plusieurs choses. Évidemment, être sur le Vision Pro, on a beaucoup de choses en IA qu'on va essayer d'intégrer de l'IA dans VLC. Un petit peu compliqué à faire, parce qu'on a des problématiques un peu différentes des autres.
Mais ça peut être quoi l'IA dans VLC? Vous pouvez nous donner un exemple?
Bah oui, sous-titres automatiques et traduction automatique. Ah, pas mal. Mais sans utiliser ce que font tout le monde, c'est-à-dire sans utiliser un service hosté. Moi, je veux que tout soit fait en local sur la machine, okay. pour pas qu'il y ait une dépendance à un service qui un jour, comme tous les services propriétaires qu'on voit, qui un jour s'arrête. Donc c'est un petit peu compliqué à faire. Effectivement, les chaînes de télé, c'est un vrai sujet.
Ça arrivera, ça. Le sous-titrage par l'IA, c'est dans le pipe. C'est obligé.
C'est obligé. Enfin, ouais. c'est même pas une question, en fait. Mmh. La question, c'est pas est-ce qu'on va le faire. La question, c'est quand. La version, elle marche très bien sur mon ordi. Quand est-ce qu'on arrive et on le distribue à des centaines de millions de personnes? Ça, c'est la question. Sur la partie chaîne de télé, effectivement, il y a de plus en plus de chaînes, il y a de plus en plus de contenus, que ce soit des chaînes de télé, des web radios, des podcasts, du Twitch, d'Amazon, etc. Et c'est une marée de contenus.
Ouais. Il y a évidemment... C'est compliqué de compiler tout ça, d'avoir une espèce de carrefour où on pourrait retrouver tous ces liens, finalement.
C'est très compliqué, et surtout, il y a beaucoup de choses qui ont besoin, en fait, de visibilité, qu'on appelle des chaînes fast ou de ce qu'on appelle de l'AVOD. Et donc, comment je vais les trouver? Et il y a plein de gens, en fait, qui se rémunèrent, en fait, par la publicité qui est à l'intérieur du flux. Et donc, ils seraient juste ravis, en fait, qu'on puisse diffuser leur chaîne.
Et vous récupéreriez un petit peu d'argent au passage?
Là, la question, elle n'est même pas là. Là, c'est juste... Alors peut-être, c'est très bien, mais là le besoin, c'est surtout de se dire qu'il faut briser le monopole de quelques plateformes qui ont l'accès et le contrôle de l'ensemble des chaînes de télé.
Vous l'avez évoqué brièvement, le Vision Pro, c'est votre nouveau terrain de jeu.
Oui, c'est
excitant,
fini,
de développer
déjà.
Un lecteur vidéo comme ça pour la VR.
Alors c'est sûr, c'est que la VR, c'est vraiment le rêve toujours qu'on fait de la 3D, de la vidéo. Ça fait des années qu'on en parle. Pour moi, là, c'est déjà la troisième génération de VR où tout le monde s'excite. Et puis en fait, il en ressort pas grand-chose. Là, c'est Apple, donc on fait un peu plus confiance qu'ils vont réussir à faire quelque chose. En particulier parce qu'ils ont quand même beaucoup de fans. VLC, ça marche très bien sur le Vision Pro. On est en test pour les gens qui veulent tester, et ça marche que ce soit le streaming, la vidéo, l'audio, tout ça.
Et la prochaine étape, après, c'est quoi?
En fait, ça commence à être compliqué parce qu'on est un peu partout, on est sur plus. Ce qui est rigolo, c'est que VLC, c'est pour plus de plateformes que Microsoft, ouais, que Office, que les...
Sur les téléconnectés, ça aura un sens d'avoir VLC?
Mais on a déjà VLC sur les téléconnectés. Okay. Et d'ailleurs, beaucoup, comme je disais, beaucoup de technos, en fait, qui sont sur les téléconnectés, sur vos smartphones.
Sont issus de
Sont issus de VLC, utilisent la techno de VLC sans forcément le savoir.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Baptiste Kampf.
Merci.
D'être passé par le plateau de Tech & Co. Vous êtes le président, donc, de Videolan, éditeur de VLC. Qui a dépassé les 5 milliards de téléchargements, et vous le disiez, ça c'est sur votre site, mais si on compte le reste, ça doit être beaucoup plus. Merci beaucoup.
Merci.
Et direction tout de suite la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Et j'accueille Salomé Ferrari. Bonsoir Salomé.
Bonsoir François.
C'est la première de Salomé dans Tech & Co. Tout va bien ?
Tout va bien.
Nos stress ?
Nos stress.
Parfait. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Apple. Salomé, Apple qui devrait dévoiler ses nouveaux iPads dans un mois. Alors on murmure vers le 6 mai. Est-ce qu'on sait à quoi vont ressembler ces nouvelles tablettes ?
Est-ce que toi François, ça te viendrait à l'idée de changer d'iPad un petit peu tous les ans comme on change d'iPhone ?
Eh bien non. Déjà, je change pas d'iPhone tous les ans, parce que c'est vrai que, voilà, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'iPhone 13 et 14, mais c'est vrai que l'iPad, en général, on l'achète et on le garde longtemps.
Exactement, et c'est un petit peu le problème d'Apple, c'est que les gens n'ont pas forcément envie de changer de tablette, parce que les modèles ne changent pas d'une annonce à une autre. Alors, forcément, ça ne plaît pas à Apple, ils vont vraiment essayer d'annoncer de gros changements cette année, c'est en tout cas ce que la presse américaine dit, et les changements devraient être annoncés autour donc du 6 mai.
Très bien. Alors, justement, Salomé, on rentre dans le dur. Quelles sont les nouveautés auxquelles on pourrait s'attendre ?
Alors, qu'est-ce que toi, t'aimerais voir ?
Moi, j'aimerais bien un iPad pliant.
Ah bah, malheureusement, ça ne devrait pas être annoncé, je suis désolée.
Zut !
Ouais.
Bon, bah, mais... écoute, j'aurais tenté.
Bel essai. Mais il y a vraiment trois changements qui devraient être annoncés donc, autour de l'iPad Pro, principalement. Le premier, c'est le passage à l'OLED. Donc, c'est vraiment l'écran qui est utilisé sur la plupart de nos iPhones. Donc, ça permet un meilleur affichage. Après, il y a un changement de taille. Même si on parle que de 1 mm en plus, voire de 0,5 mm. Donc, c'est pas grand-chose, mais je le mentionne.
C'est toujours ça de prix.
C'est ça. Et le dernier, le plus important, c'est l'arrivée de la puce M3. Donc, la puce M3, c'est celle qui est utilisée dans les Mac, notamment le dernier MacBook Air qu'on a testé donc sur Tech & Co en début d'année. Mmh. Et ça permet donc une puissance, une plus grosse puissance qui se rapprochait donc de celle des Mac. Et c'est pas tout.
C'est pas tout, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
On a aussi les iPad Air, donc on devrait avoir deux tailles d'iPad Air. Donc la première qu'on connaît déjà, c'est le 10,9 pouces, c'est l'iPad actuel. Et le 12,9 pouces, donc cette fois-ci, c'est l'iPad Pro, c'est l'équivalent de l'iPad Pro. Et c'est pas fini. J'avais dit qu'il y avait beaucoup d'annonces. La dernière, donc, ce serait vraiment toute une flopée d'accessoires qui accompagneraient les iPads. Et pour plus de détails, on peut aller donc directement sur le site de Tech & Co.
Et tout ça coûterait plus cher en plus.
Bah forcément. Qui dit amélioration, dit mettre la main en porte-monnaie. Alors on n'a pas forcément de détails, mais ça devrait forcément être plus cher.
Merci beaucoup Salomé Ferrari. Si vous voulez en savoir plus sur ces futurs iPads, vous pouvez retrouver tout cela sur le site de Tech & Co. Bien
avec
évidemment.
Plaisir.
Il est 21h20 pour terminer ce Tech & Co. Petit retour en arrière. On se replonge dans l'AWS Summit de Paris. C'était mercredi dernier.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et Sacha Rubel nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Sacha.
Bonsoir.
Merci d'être la directrice Europe politique publique pour l'IA, IA générative chez AWS. Je le disais, mercredi dernier, grand jour pour vous, hein, pour cette nouvelle édition. C'est la 11e, je crois, édition de l'AWS Summit à Paris. C'était au Palais des Congrès, porte-maillot. Ça s'est bien passé ? Je crois que vous avez explosé les records, non, en termes de visiteurs ?
On a eu plus de 10 000 visiteurs la semaine dernière, mais surtout, on a vu la présence des acteurs clés comme Anthropic, Hugging Face, Mistral, mais aussi Okin Scenario et Lighton. Et surtout, on a fait la grande annonce de la disponibilité de Bedrock, notre solution pour les entreprises, pour les offrir la plus grande choix de modèles, inclut le lancement de l'accessibilité au Mistral Large et au Claude 3. Mais surtout, que je retiens de la semaine dernière, c'est l'appétit, pas simplement des entreprises françaises pour l'adoption de l'IA. Et d'ailleurs, on a vu la croissance de l'adoption de l'IA entre 2022 et 2023, 35% de plus de l'adoption en France, mais surtout un sentiment et une effervescence au niveau française que l'IA peuvent nous aider à faire face à des défis sociétaux. Donc, on a vu des exemples de la santé à la finance qui nous inspirent par rapport à l'avenir de cette technologie pour le bien commun.
Et vous avez tout un chemin tracé, parce que effectivement, il y a beaucoup d'entreprises en France et elles n'utilisent pas encore toutes l'IA. Et l'idée aussi de ce AWS Summit, c'était de montrer des exemples concrets d'accélération d'entreprise grâce à l'intelligence artificielle, c'est ça ?
Tout à fait. On avait des exemples, par exemple, comme One Bioscience ou Magentine Healthcare, qui montraient justement comment, dans l'accélération de l'adoption de l'IA, comment on peut faire face à des défis de la santé ou de la finance, ou bien d'autres, inclus par exemple la conférence qu'on a fait sur la question de l'accessibilité et comment ces technologies peuvent aider dans l'accessibilité. Par contre, une des choses...
Typiquement un exemple de l'accessibilité, parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous, comment l'IA peut aider l'accessibilité ?
Donc, une des conférences qu'on a fait la semaine dernière en marge du sommet, c'était justement de montrer comment l'IA générative peuvent, par exemple, améliorer l'accès à des personnes malveillantes, malvoyantes, par rapport à la technologie. Et donc, en fait, on a, par exemple, des solutions à travers Alexa ou autre qui, en utilisant l'IA générative, aident des personnes malvoyantes à avoir l'accès à l'information.
C'est ça, simplement avec la voix.
Simplement avec la voix.
Incroyable. Et on en est au début, hein. C'est vrai qu'il y a énormément de technologies justement pour l'accessibilité des personnes qui sont en situation de handicap. Un mot, vous l'avez évoqué rapidement, mais c'était l'annonce de l'arrivée de Bedrock en France, qui était très attendue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte Bedrock arrive sur AWS et à quoi ça va servir?
Alors Bedrock, qui est justement la solution de AWS pour assurer la plus grande disponibilité de choix de modèles aux entreprises françaises, représente vraiment ce qui est dans l'ADN de notre entreprise. C'est que le choix est nécessaire, que le maîtrise de coût est essentiel et que la confidentialité doit être le début, le milieu et la fin de toute l'innovation de l'IA. Et donc avec cette disponibilité de Bedrock, on reflète justement notre engagement pour rendre accessible et démocratiser l'accès à l'innovation et surtout de l'IA du cloud.
Quand vous parliez de confidentialité des données, sujet très important, bien évidemment, vous garantissez quoi aujourd'hui? Que les données qu'une entreprise française manipule en France ne sortira pas du territoire français, par exemple?
C'est une des choses qui est essentielle dans la disponibilité de Bedrock, et d'ailleurs une des choses qu'on fait quand on accompagne des entreprises dans l'adoption de l'IA, c'est justement de les conseiller qu'il faut absolument avoir une bonne stratégie de données. Une bonne stratégie de données et une bonne base de données assurent une bonne IA. Sans cette qualité de données, il n'y a pas des bonnes solutions de l'IA. Et ça fait partie de notre engagement primordial, c'est cette confidentialité-là.
Rapidement aussi, parce que vous avez évoqué tout à l'heure l'arrivée de Mistral. Mistral qui a plusieurs large language models de puissances différentes. Là, je crois que vous avez le plus puissant qui arrive sur donc AWS. Ça aussi, c'est un partenariat important pour vous, le partenariat avec Mistral?
Très important. Et d'ailleurs, on rend disponible pas simplement l'accès à cette modèle-là, mais encore une fois, pour retourner à notre engagement du choix, c'est l'idée qu'il n'y a pas une modèle qui va maîtriser tout. Que dépendant du cadre d'études et d'usage, qu'il y a des modèles différents. Donc, on rend disponible modèles du Mistral, mais aussi des modèles de Anthropic et bien d'autres travers Bedrock.
Mais c'est vrai qu'on aime bien Mistral parce que c'est les petits
Frenchies,
les petits Frenchies qui réussissent. C'est pour ça. Prochaine AWS l'année prochaine, forcément.
Voilà. Tout à fait.
On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Et si vous voulez en savoir plus sur ce rendez-vous, je vous invite à aller chercher dans le replay de BFM Business le Tech & Co, la quotidienne qu'on a pu faire mercredi dernier depuis cette AWS Summit édition 2024 au Palais des Congrès, Porte Maillot, avec énormément d'invités, des partenaires aussi qui étaient sur ce plateau. Merci beaucoup, Sacha.
Merci à vous.
Sacha Rubel, donc directrice Europe Politique Publique pour l'IA et l'IA Générative chez AWS. Et bien voilà, c'est sur ce sujet que se termine ce Tech & Co, la quotidienne en ce lundi soir. Toujours un plaisir que de vous accompagner. On sera là, bien sûr, demain, mardi, toujours pareil, hein, 20h-21h30, radio-télé en direct, et puis après les replays et les podcasts qui vous attendent. À demain, bien sûr, à demain.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.